Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi, ve men velâ hilâ yevmiddin ve ba'd. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim. Rabbi zidina ilma ya kerim, Rabbi zidina ilma ya kerim, Rabbi zidina ilma ya kerim. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdete min lisani yefkahu kavli şefkha gisar. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal, qui nous donne la possibilité ce soir de reprendre le programme, Inch'Allah, sur l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal. Et nous allons avancer dans l'étude du nom d'Allah Al-Ghani, celui qui est immensément riche. On a eu l'occasion de voir en introduction cinq points dans les durous précédentes concernant le fait qu'Allah Azza wa Jal est immensément riche. C'est qu'Allah Azza wa Jal possède tous les attributs et toutes les qualités. Ainsi donc, le cœur du croyant doit se lier au Seigneur des mondes qui est capable de tout. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal, عِنْدَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il possède l'ensemble des trésors et les biens de ce monde. Ainsi, pour toute demande, ton cœur, là aussi, doit s'orienter vers Allah. C'est-à-dire qu'en étudiant ce nom d'Allah, le fait qu'Allah est Ghani, ça fait naître en nous ta'zimullah. On a encore plus de considération, on ressent plus la grandeur d'Allah. Mais en même temps, je réalise à quel point je suis, moi, être humain insignifiant, et comment est-ce que j'ai grandement besoin d'Allah Azza wa Jal. Et sans l'aide de mon Seigneur, je ne suis capable de rien. C'est cette relation de, on va dire, de servitude, cette relation entre le makhlouq, la créature, le abid, le serviteur, et son créateur qu'on a besoin de recréer et de remettre en place, entre autres par le biais de l'étude de ce nom d'Allah Azza wa Jal. Troisième point, on avait vu que celui qui est immensément riche attend de ses créatures qu'on lève les mains et qu'on l'invoque. Alors que dans sa richesse, dans sa puissance, Allah Rabbul Izza est capable de nous accorder sans même qu'on lui demande. Et dans certaines situations de la vie, Allah nous accorde des choses que nous ne lui demandons pas. Mais Allah Rabbul Izza aime ce croyant qui l'invoque. Et on avait vu le hadith Qudsi qui rappelle que si l'ensemble de la création se réunissait pour l'invoquer, lui demander tout ce qui est imaginable pour un être humain, Allah Azza wa Jalla est capable de nous les accorder sans que cela ne diminue son trésor, tout comme quelqu'un met une aiguille dans l'océan et retire, il n'a rien enlevé de la mer. Donc cette métaphore, ce hadith, on l'a vu, et ça permet de nous donner encore plus d'espoir quand nous faisons du'a. On avait vu récemment qu'Allah Azza wa Jal, dans sa richesse, ce qu'il possède bien sûr, mais également le fait qu'Allah est ghaniyun 'anil khalq. Allah n'a besoin de personne. Ainsi, nos actes d'adoration, nos qiyamul layl, nos lectures du Qur'an, nos dhikrullah, nos istighfar n'apportent rien à Allah Azza wa Jal. Allah n'a nullement besoin des actes d'adoration des serviteurs. Bien au contraire, c'est nous qui sommes les seuls qui profitons réellement de ce ibadah par rapport à tout ce qu'Allah nous accorde en termes de récompense, de grade qui est augmenté, de pardon des péchés et ainsi de suite. Voilà, donc il était nécessaire, comme on n'avait pas fait de programme depuis 3 semaines à peu près, donc on a fait un petit récapitulatif. On va avoir 2 points aujourd'hui. Le point numéro 6, وَمِنْ كَمَالِ رِنَاهُ, et on va dire une des leçons qu'on retient de cette richesse immense d'Allah Azza wa Jal, أَنَّهُ أَغْنَى عِبَادَهُ بِمَا بَسَطَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْزَاقِ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ. L'auteur, le mu'allif, hafidhahullah, explique que parmi les manifestations de cette richesse d'Allah, c'est qu'Allah Azza wa Jal accorde à certains de ses serviteurs une satisfaction, ce qu'on appelle en arabe al-qana'a, la satisfaction pour les bienfaits qu'il leur a accordés. C'est-à-dire que Allah te permet déjà de voir, de comprendre et de réaliser les bienfaits qui t'entourent. Et c'est déjà quelque chose, c'est déjà un bienfait en soi que d'avoir une clairvoyance, une compréhension une prise de conscience de ce qu'Allah nous a accordé. Parce que beaucoup de gens ont bénéficié de grands bienfaits, mais malheureusement, l'ingratitude, la lassitude, la grande facilité avec laquelle nous avons pu acquérir ces choses, ou alors nous les avons obtenues directement sans le moindre effort, fait que l'être humain oublie absolument que c'est un ni'ma. Et malheureusement, c'est lorsque le bienfait est repris que la personne réalise que c'était quelque chose d'irremplaçable. Mais les gens qu'Allah aime, les serviteurs, les pieux serviteurs d'Allah, Allah leur accorde premièrement cette reconnaissance, ce shukr, cette gratitude envers Allah Azza wa Jal. Le croyant réalise, prend conscience des bienfaits. Et deuxièmement, il y a ce qui se produit également, ce qu'on appelle al-qana'a. C'est un terme en arabe qui n'a peut-être pas, on va dire, de très bonne traduction. C'est la satisfaction. C'est-à-dire ce qu'Allah t'a accordé, tu le considères à sa juste valeur, du simple fait de savoir que cela provient d'Allah, ce qui fait que tu ne te montreras jamais ingrat. Tu ne vas jamais remettre en question la qualité du bienfait ou alors le pourquoi de telle chose. Et pourquoi voilà, j'ai demandé telle chose de mes invocations, Allah m'a accordé entre guillemets uniquement cela. Non, le qana'a te permet de réaliser que cela vient d'Allah et tu en es pleinement satisfait. Et le qana'a te protège d'un péché destructeur, un péché qui touche les cœurs et qui finit par se répercuter et sur nos parfois même des proches, nos frères et sœurs de sang, et qui, wallah musta'an, qui va parfois gangréner la société et pourrir totalement les liens entre les gens, c'est al-hasad, la jalousie. Celui qui fait preuve de qana'a, de satisfaction par rapport à ce qu'Allah lui a accordé, c'est une personne qui ne se plaindra jamais, ne se montrera jamais ingrat, ne sera jamais atteint par la cupidité, toujours en vouloir plus, et ne sera jamais jaloux. Donc ça, c'est une qualité que nous devons demander à Allah Azza wa Jal, et ça fait partie de la manifestation de sa richesse que d'accorder à son serviteur ce sentiment de satisfaction, parce que je sais, je suis conscient que ce que je possède, c'est Allah qui m'a donné. Et si mon voisin, ou mon frère, ou mon cousin, ou mon oncle, peu importe, mon beau-frère, peu importe, possède plus que moi, ou a réussi là où moi j'ai échoué, c'est ce qu'Allah a prédestiné. Et on se satisfait de la décision d'Allah, on accepte ses décrets, et on avance. Parce que la jalousie, ikhwan et khawati fillah, au-delà du fait que ça brûle les bonnes actions comme le feu consume le bois sec, au-delà du fait que ça envenime un petit peu les relations, ça fait de nous un peu des hypocrites aussi, parce que quand on est jaloux de quelqu'un, très souvent on a une relation normale avec elle, mais intérieurement on brûle de jalousie, donc de mauvaises intentions, et voilà. Mais au-delà de tout ça, le fait d'être jaloux t'empêche d'avancer dans la vie. Même si tu as, je donne un exemple, hein, c'est l'exemple très classique, très basique, tu as un véhicule de base, un travail qui t'apporte, on va dire, un salaire correct, je dis un chiffre au hasard, je touche 2000 euros, j'ai une voiture qui roule, d'accord, c'est pas le dernier modèle, mais ça va, ça gère, j'ai une famille, j'ai une maison, alhamdoulilah. Théoriquement, j'ai les asbab, un toit, une monture, une famille, j'ai ce qui est accordé à un serviteur de ce dunya qui lui permet normalement d'avancer et d'être heureux. Maintenant, vous voyez comment la jalousie m'empêchera de profiter de ses bienfaits, c'est lorsque je vais voir mon voisin, mon cousin, mon beau-frère, mon ami, peu importe, qui lui a un peu plus, hein, d'accord, un véhicule plus, on va dire, plus luxueux, une maison plus spacieuse, ainsi de suite. Bref, ce qui fait que je serai tellement préoccupé par cette jalousie qui ronge mon cœur, que en plus de développer la haine, une certaine haine intérieure, une certaine animosité envers cette personne, je n'apprécie même plus ce qu'on appelle, ce que certains psychologues parlent de l'instant présent. Tu oublies totalement l'instant présent, tu ne profites plus de ce qu'Allah t'a accordé parce que tu as les yeux en permanence rivés sur ton prochain, sur ses bienfaits. Wallah musta'an. Donc, c'est un bienfait qu'Allah accorde à qui il veut, la qana'a, nous demandons à Allah Rabbul Izzah de nous accorder al qana'a. Ça, c'était le point numéro 6. Ah. On passe au point suivant, on va dire, ça s'appelle en arabe, on appelle ça le lubbul mawdou', c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ou alors plutôt le socle du gâteau. Le point culminant, c'est vraiment le point le plus spirituel. L'auteur nous dit « wa akhassu min dhalik » et quelque chose d'encore plus précis. « Annahu aghna khawas ibadah » Là, on parle de khawas. C'est lorsqu'Allah accorde à certains serviteurs, des khawas, des serviteurs qui lui sont très chers, certaines personnes, « bima afadahu ala qulubihim min al-ma'arifi wal-ulumi rabbaniya » والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفدوا إلى أحد سوى. C'est très beau ce que l'auteur dit, que Allah accorde à certains de ses serviteurs, mais vraiment une petite quantité de personnes, Allahumma ja'alna minhum, Allah accorde à certaines personnes, on va dire une satisfaction. Une satisfaction, une richesse, on appelle ça le rinan nafs, une richesse intérieure, c'est-à-dire ton cœur s'enrichit, mais pas des biens de ce monde. Ton cœur va s'enrichir de la connaissance religieuse et al-haqa'iq al-imaniya, de certaines réalités de la foi qu'Allah dépose dans ton cœur, qu'Allah fait descendre sur toi, et cela t'apporte une telle richesse intérieure. On décortique les deux points. La connaissance religieuse. Le ilm, il n'y a rien de plus important pour un être humain que la connaissance religieuse. Ça, c'est très clair, il n'y a pas besoin de développer. « Man yuridillahu bi khayr yufaqqihu fid din » Quand Allah veut du bien pour une personne, Allah lui accorde la compréhension de la religion. Mais, « ikhwan ikhawati fillah » la connaissance n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant. Une personne peut avoir la connaissance religieuse, mais ne pas mettre en pratique. Donc ça devient un argument contre lui. Wallah musta'an. Et qu'Allah nous protège le jour de Qiyamah. Tout comme celui qui mémorise le Coran, mais ne le lit pas, ne le révise pas, et surtout ne le met pas en pratique. Alors, Coran, hujjatun laka aw alayk. Le Coran, soit il est de ton côté, c'est-à-dire le jour de Qiyamah, ou il est contre toi. Qu'Allah nous protège, c'est pour celui qui ne l'aura pas mis en pratique. Donc, de la même façon, la connaissance religieuse, par analogie, on connaît les hadiths qui rappellent parmi les premières personnes entrées de le Jahannam, c'est le savant ou celui qui avait la lecture du Coran, mais qui le faisait par ostentation et ainsi de suite. Ce sont des hadiths, des grands classiques qui sont connus. Pourquoi est-ce que l'auteur parle de la connaissance et ensuite il parle de al-haqa'iq al-imaniya, les réalités de la foi? C'est quand Allah Rabbul Izzah, dans sa générosité, te permet de faire le lien entre ce que tu connais et la réalité de cette connaissance. Et c'est là que le croyant, il puise de cette connaissance pour enrichir sa vie, pour monter le niveau spirituel de chaque instant de sa vie, pour fortifier sa foi, pour arriver à un état où il ne vit que pour Allah, n'attendant rien des gens, n'attendant que les promesses divines, n'ayant aucune crainte concernant à propos des makhlouqas, des créatures, mais que son cœur soit rempli uniquement de la crainte d'Allah. Je connais des personnes, je les vois, il n'y en a pas énormément, et Allah est seul juge, mais je connais certaines personnes qui n'ont pas, on va dire, des années d'études religieuses, j'allais dire beaucoup de connaissances religieuses, je ne peux pas juger, mais c'est des gens qui n'ont pas appris énormément n'ont pas étudié spécialement un livre, un kitab de tafsir, de hadith et tout, ils ont quelques connaissances de base, mais c'est comme si que c'est 100% de ce qu'ils connaissent, on les retrouve dans leur vie. Alors qu'une autre personne, un cheikh, un fundi, un anim, peut avoir une connaissance religieuse d'un niveau sur une échelle de 10, ça arrive à 8. Mais il n'y a que 10% qu'il arrive à mettre en application dans sa vie. Et il y a d'autres personnes, comme je le dis, ils n'ont pas énormément de connaissances religieuses, apparentes, mais c'est des gens que je connais, que je côtoie, leur faculté à raddul basar, à contrôler leur regard. leur aisance à fréquenter, la facilité qu'ils ont dans al-alaqa ma'an-nas, de leur relation avec les gens, dans le sens où ils peuvent côtoyer des gens qui ont les moyens, mashallah et tout, mais qu'aucun de ces bienfaits n'effleure son attention ni ne touche son cœur. Et j'en connais des gens, il n'y en a pas énormément, mais sur les doigts d'une main, d'un manchot même, mais il y en a, et j'en connais, et c'est admirable. Et ces mêmes personnes, et voilà le natija, le résultat, ces mêmes personnes, quand je les vois prier, des fois je les observe, on sent vraiment qu'ils développent une concentration de leur salat qui est exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle al-haqa'iq al-imaniya, des réalités de la foi, que quand on parle à une personne de muraqabatullah marra wahida, une seule fois, on lui parle de le regard d'Allah qui est sur nous, il n'y a pas besoin de développer, de donner des exemples, de là wallah, il l'écoute une fois et ce sera son quota de ilm concernant cette réalité. Et le mettre en application, mais d'une façon incroyable, totale, que la personne ne s'aventurerait jamais vers le moindre péché parce qu'il sait pertinemment qu'Allah est en train de l'observer. Et cette connaissance qu'on a véhiculée une fois devient, ça fait partie de sa vie. Ça constitue son iman. Et je connais des gens à notre époque qui sont comme ça. Et c'est admirable. C'est un peu comme les... Enfin, on ne compare pas, mais... On connaît que certains sahabas, avant de voyager, lorsqu'ils allaient voir le prophète, alayhi salatu wassalam, ils demandaient, ya Rasulallah, awsini, au prophète d'Allah, donne-moi un conseil avant ce voyage. Le prophète salam lui disait, ittaqillah, crains Allah. Bas. Et le sahaba se mettait à pleurer, parce qu'il a compris l'importance, l'impact et le poids de la taqwa Allah. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les haqa'iq al-imaniya, ces réalités de foi, et qu'Allah nous les accorde. Donc l'auteur dit, Allah accorde à certains de ses serviteurs une richesse intérieure, ce qu'on appelle rinan nafs, qui fait que la personne n'a besoin de personne et n'a besoin de strictement rien. Et la seule chose qui le remplit, là aussi c'est un terme un peu des psychologues un peu modernes, hein, de leur livre de développement personnel et tout, il y a ces thèses qui se vendent très bien d'ailleurs. Allah accorde à cette personne, donc oui, son cœur se remplit uniquement des ibadas, des adhkar, de la connaissance religieuse. C'est ce qui lui apporte vraiment quelque chose de lumineux, ça le remplit, ça remplit son cœur de joie. Il trouve ce bonheur, il se retrouve uniquement de ce genre de magie, d'assemblée, et que ces personnes ont une compréhension de la religion, une réalité de foi qui a pénétré leur cœur, qui fait que dans n'importe quelle situation et action de leur vie, ils pensent à Allah, ils prennent les bonnes décisions. Hatta ta'allaqat qulubuhum bihi wa lam yaltafitu ila ahadin siwa. Arrivé à un degré que leur cœur est uniquement avec Allah et ils n'ont besoin de personne et leur cœur ne s'oriente vers personne d'autre. C'est vraiment la grande leçon que nous devons essayer de comprendre et c'est la pratique que nous devons essayer de développer à travers l'étude de ce nom d'Allah Al-Ghani. Et on a deux textes qui illustrent cette explication. On a un hadith de lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous explique, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs. La véritable richesse ce n'est pas de posséder, d'avoir et d'accord, mais walakin al-ghina ghina an-nafs, mais la véritable richesse c'est cette richesse qui est en toi, dans ton cœur, au plus profond de toi. Et c'est l'explication qui a été donnée par l'auteur qu'on a expliqué. Deuxième hadith de Abu Dharr radiallahu anhu, qu'a alayhi salatu wassalam. Là, c'était un hadith de justement Abu Dharr relate un échange, une conversation entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète demandait, oh Abu Dharr, atara كثرت المال هو الغنى أو أبو ذر. Est-ce que tu penses que la richesse c'est lorsqu'un homme possède beaucoup de biens, d'or et d'argent? فقلت نعم يا رسول الله. Je dis au prophète d'Allah, oui, c'est ce que je comprends. Bon, on dit, Ya Abu Dhar, fatara, qillat al-mali huwa al-faqr, ou Abu Dhar. Maintenant, comment est-ce que tu définis la pauvreté? Est-ce que selon toi, la pauvreté, c'est quand on a peu d'argent? Abu Dhar dit, ô prophète d'Allah, c'est bien ça. Et en parenthèse, les savants disent, voyez, les sahaba étaient des êtres humains, comme vous et moi, avec une compréhension des choses, d'un insan, banu Adam. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, à travers quelques nasiha, quelques conseils, a fait de ces sahaba les meilleurs des hommes. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. Sache que la véritable richesse, c'est quand ton cœur devient riche. Il se suffit, on explique, il se suffit de ce qu'Allah lui a accordé, le qana'a, et il se remplit et il s'épanouit dans l'adoration divine. Et la pauvreté, c'est quand le cœur devient pauvre. Et c'est quoi un cœur qui est pauvre? C'est un cœur qui est ingrat. Jamais satisfait, un cœur rempli de cupidité, de hubboudunia, de recherche des biens de ce monde de façon permanente, mais c'est également un cœur qui ne pense pas à Allah. C'est un cœur qui ne pense pas à Allah. C'est un cœur qui ne trouve pas la douceur de la foi. C'est un cœur qui ne trouve aucun intérêt dans la pratique de la religion. C'est-à-dire, c'est un cœur qui est vide. Ça, c'est un cœur qui est réellement pauvre et qu'Allah nous protège. On va s'arrêter à là pour ce soir, Inch'Allah. Et il y avait une petite parenthèse. Et pour information, le hadith qu'on vient de citer est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim et a été authentifié par Al-Zahabi. Hein, très souvent, les gens aiment quand on dit ça a été authentifié par Al-Bani, mais avant Al-Bani, il y avait des alam, des grands savants, des grands chouyours qui ont fait énormément de, mashallah, d'efforts dans l'authentification des hadiths et entre autres. Imam al-Zahabi rahimahullah. Oui, parallèle, on va dire, par un vécu d'un contemporain, d'accord. J'avais vu une fois, je pense que tout le monde a dû voir ce documentaire, sur celle qui se faisait appeler avant Diams, chanteuse. C'est du rap, apparemment, hein. Et donc, on connaît son histoire, on connaît son succès aussi, hein, tout ce qu'elle a eu comme titre, et elle était vraiment par un moment la référence, hein, du rap en France, Allah musta'an. Et thumma hadaha Allah. Allah lui a accordé la guidée. Et il y avait un documentaire où c'était très beau parce que elle disait, j'avais noté ça quelque part, elle dit que c'est quand on arrive parfois à un état où on possède tout sur le plan matériel. Et il suffit d'un claquement de doigts pour qu'on ait encore plus entre la notoriété, la célébrité, l'honneur, les biens de ce monde, le fait de côtoyer, blablabla, et ainsi de suite. On a tout et c'est à ce moment qu'on ressent ce vide intérieur. C'est très beau ça, c'est très beau. Et c'est là qu'on voit rinal qalb et faqrul qalb, la richesse du cœur. Et c'est quoi la pauvreté du cœur? Cette dame, cette sœur, maintenant on l'appelle cette sœur, mashallah, elle disait très clairement, elle avait tout, mais elle sentait qu'intérieurement il lui manquait quelque chose. Et apparemment elle avait vu, elle était dans un restaurant avec des amis et elle a vu une sœur qui s'est retirée pour aller prier et elle l'a suivie pour voir qu'est-ce qu'elle faisait et elle l'a vu se prosterner. Apparemment, c'est là qu'elle a eu le déclic, elle a compris et elle a ressenti tout ce qu'on peut avoir dans un sujoud, d'une sijda, d'une prosternation. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, et elle, Allah lui a accordé la guidée, subhanallah. Allah lui a accordé la guidée. Elle a délaissé l'honneur, les biens de ce monde, l'autorité, bref, tout ça, pour se consacrer à Allah Azza wa Jal. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une personne peut posséder, Allah musta'an, les biens de ce monde, mais être privé de qana'a, hein, on n'a pas la satisfaction, donc c'est un problème. Deuxièmement, avoir un cœur rempli de jalousie, de cupidité, parce que si je suis millionnaire, il y aura toujours quelqu'un qui aura deux fois plus d'argent que moi. Il y aura toujours un milliardaire que je vais envier, d'accord? Donc il y a des gens qui ont plein, ils ont beaucoup de choses, mais ils ne font pas preuve de reconnaissance. Deuxièmement, ils ont la jalousie qui envahit leur cœur. Et troisièmement, leur cœur est vide. Il n'y a pas de crainte d'Allah, d'amour d'Allah, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision du croyant. Tu sais pas où tu avances. Si les mois qui s'enchaînent pour toi, ce sont des mois d'investissement, de rentabilité, basse. Et c'est ça la vie. Ce sont des bilans annuels pour voir mon delta, il est de combien, non, delta, Allah nous protège. Je parle pas du virus, mais le delta en termes de bénéfices, j'ai eu combien cette année, et ainsi de suite. Est-ce que c'est un bilan positif ou non? Si c'est ça, Allah musta'an, la vie de cette personne qui est riche, sachez que cette personne est réellement pauvre de son cœur parce qu'il n'y a pas de vision de l'au-delà. Qu'Allah nous accorde la richesse du cœur, déjà le qana'a, et qu'Allah nous pardonne nos signes et nos manifestations, nos paroles d'ingratitude des fois, qu'Allah nous protège de la jalousie, qu'Allah nous accorde donc la reconnaissance et nous permet de remplir nos cœurs d'amour pour lui. Et de trouver la sakina uniquement dans le dhikrullah et dans la connaissance religieuse et qu'on arrive à les mettre en application au quotidien. Qu'Allah nous accorde ces qualités au matawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.